Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Pour les défenseurs de l'environnement et les experts en matière de développement, le vert n'est pas seulement une couleur, c'est un mot qui évoque aussi les activités bénéfiques pour l'environnement et l'utilisation raisonnée des ressources terrestres. Avec plus de 62% des pays africains dépendant des ressources naturelles pour leur PIB, l'économie circulaire est cruciale pour la croissance du continent et avec des investissements stratégiques et des politiques innovatrices, l'Afrique peut bien débloquer un accroissement de 2,2% de son PIB, générer 11 millions d'emplois et accéder à un marché mondial de l'économie circulaire de 526 milliards de dollars, a déclaré Anthony Nyong, directeur du département du changement climatique et de la croissance verte à la Banque africaine de développement. Ainsi, mesdames et messieurs, pour atteindre donc ces objectifs, cette transition juste et durable doit nécessairement refléter les spécificités de l'Afrique. Une transition juste et durable qui répondra bien évidemment aux besoins de l'Afrique et agira comme un système économique englobant la durabilité environnementale, l'atténuation sociale et l'industrialisation verte. Doit être bien évidemment définie et comprise. Justement, mesdames et messieurs, pour mieux comprendre cette notion d'économie verte face aux défis de l'industrialisation, nous sommes avec Abdelghani Youmni, économiste, spécialiste des politiques publiques, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, rapporteur de la Commission du commerce extérieur et du développement durable. Bonjour à vous et merci encore de répondre à notre invitation.
Bonjour Monsieur Ababacar Tonkara et merci pour l'invitation.
Alors, sans plus tarder Monsieur Youmni, on nous parle d'énergie verte et dans l'optique de l'accélération de l'industrialisation, vous évoquiez 5 leviers essentiels. Quels sont-ils et l'énergie en tant que telle, verte bien évidemment, y est-elle plutôt intégrée?
C'est vrai, l'accélération de l'industrialisation de l'Afrique repose, comme toutes les industries du monde à leur décollage, sur 5 leviers principaux. C'est d'abord avoir une vision claire qui est liée à une gouvernance, puis à un climat des affaires favorable, des infrastructures robustes, des investissements colossaux, c'est le nerf de guerre, entre 150 et 200 milliards de dollars au moins pendant une dizaine d'années, et puis la montée en puissance du capital humain. Donc ça, c'est très important et c'est sur le capital humain que j'aimerais beaucoup insister. C'est d'abord la formation professionnelle, les compétences technologiques et techniques, mais aussi numériques, mais aussi surtout un transfert de technologie de la part des pays riches et des pays anciennement industrialisés.
Et voilà, par rapport à ça, d'abord déjà, transition technologique, transition énergétique, c'est quoi la différence? Mais aussi, l'Afrique est-elle condamnée à choisir entre les deux?
Non, l'Afrique n'est pas condamnée à choisir entre les deux. Et vous savez, il y a le plat de résistance, il y a le dessert. Beaucoup de pays très riches demandent à l'Afrique de démarrer avec le dessert. Ce n'est pas possible. Il faut commencer avec le plat de résistance. Et si vous voulez, l'absence de l'énergie verte, est-ce qu'elle peut être attribuée à plusieurs raisons dans la montée de l'industrialisation de l'Afrique? D'abord, aux priorités immédiates, c'est-à-dire les décideurs, ils doivent se concentrer sur les défis plus immédiats tels que la stabilisation économique, la gouvernance et la création rapide d'emplois, parce que c'est très important de créer des emplois. Comme vous savez, le dividende démographique que connaît le continent africain, avec une augmentation d'au moins 15% par an de la population. Et puis, il y a le manque de sensibilisation. Il faut sensibiliser les populations africaines. Et puis, il y a les coûts initiaux. C'est très important parce que les coûts initiaux sont très élevés pour des infrastructures vertes. Et ça peut être un frein, même si les solutions s'avèrent plus économiques à long terme. Parce que c'est très difficile d'expliquer le long terme sur des populations, mais aussi des États qui sont dans l'immédiateté. Et puis, la transition énergétique en Afrique, elle doit être d'abord juste avant d'être durable. Surtout que notre continent n'émet que 4% du gaz à effet de serre et que notre économie dépensait de 90% des exportations des hydrocarbures, pétrole et gaz. C'est ça, si vous voulez, le dilemme.
Et donc, dans cette même optique, beaucoup de spécialistes de l'environnement disent que le futur de l'humanité se jouera dans le Sud. Partagez-vous cet avis ?
Oui. C'est une évidence. Le dividende démographique et le potentiel des marchés de consommation, les matières premières et la force de travail se trouveront dans les pays du Sud. En 2050, la population mondiale va atteindre, selon les projections, 9 milliards d'habitants et 2,5 milliards seront en Afrique avec une moyenne d'âge de 25 ans. Et si vous prenez à titre d'exemple, par exemple, le continent européen qui va décliner en démographie, il y aura plus que 630 millions d'habitants avec une moyenne d'âge de 47 ans. Donc vous voyez un petit peu la différence. En 2050 aussi, au niveau PIB, l'Afrique serait à 3 000 milliards et le PIB mondial serait à 50%, si vous voulez, en Asie, et entre les mains de la Turquie, la Russie, le Mexique, l'Indonésie, l'Inde et la Chine, et les pays anciennement industrialisés, c'est-à-dire les pays dits occidentaux, entre guillemets, n'auront plus que 20% du PIB mondial. Nous sommes à l'aube d'un retournement, si vous voulez. Oui, l'avenir est dans le Sud. Et si vous voulez, pour beaucoup plus approfondir, le modèle économique des pays riches a été construit sur le financement des retraites par les cotisations, les finances publiques par l'impôt et la consommation par le crédit. Et c'est ça un peu qui a posé le problème. Le futur de l'humanité, face aux défis globaux actuels tels que le changement climatique et les inégalités, se trouvera bien dans les pays du Sud.
Mais également, le coût de l'accès universel à l'électricité en Afrique s'élève à plus de 200 milliards de dollars. Celui de l'abandon des énergies fossiles à ne plus extraire ni gaz ni pétrole et à rendre les dettes exponentielles et ne plus disposer de réserves de change pour financer les importations semble être la nouvelle donne. Est-ce le prix à payer pour le protectionnisme vert défendu par les pays riches ?
Non. Oui, je vous remercie, M. Tonkara, pour cette question. Moi, je suis un peu du côté de l'ancien président sénégalais, Macky Sall, qui défend une justice climatique et qui dit que l'Afrique n'a pas à supporter le coût de la transition énergétique et n'a pas à payer la lutte contre un changement climatique qu'elle n'a pas créé, qu'elle a subi. Alors, si vous voulez, oui, l'Afrique fait face à un double défi de taille, assurer l'accès universel à l'électricité pour ses populations. C'est un projet estimé à 200 milliards de dollars. Après, on a des problèmes de financement, malgré la promesse, puis gérer la transition énergétique, pas seulement pour donner de l'électricité ou l'accès à l'électricité pour les populations, mais aussi pour s'industrialiser, parce qu'on aura un besoin. Et on sera face à un arbitrage entre le coût du kilowattheure par le renouvelable ou le coût du kilowattheure par le fossile. Donc, alors, est-ce qu'il faut cesser d'extraire le gaz et le pétrole ? Ça pourrait avoir des répercussions économiques négatives, telles que l'augmentation des dettes, la perte des réserves de change, les difficultés financières. Mais en même temps, il faut aller vers une transition économique. Si vous voulez, il faut transiter d'un modèle d'importation des biens et services dont l'Afrique a besoin, un modèle de manufacture et de production de biens et services localement. Et en même temps, il faudrait aussi sortir du modèle de la rente de l'exportation des fossiles et des matières premières vers un modèle de transformation locale. Donc, si vous voulez, c'est toujours le postulat de l'ancien président sénégalais Macky Sall. L'abandon des énergies fossiles en Afrique, il comporte des défis. D'abord, celui de la perte de revenus, celui de l'endettement, celui des réserves de change. Et malgré la rhétorique des partenaires extérieurs qui promettent à l'Afrique la prospérité, si vous voulez, la prospérité africaine ne peut se créer qu'à travers la transformation de son économie, mais aussi de sa gouvernance politique, parce que c'est le vrai défi, si vous voulez.
Et pour en revenir à votre structure, ZLECAF, critères, EGS, environnemental, social et de gouvernance, RSE, est-ce également compatible avec le décollage et aussi l'industrialisation du continent en général et le Maroc en particulier ?
Ben écoutez, oui et non. Oui et non, parce que la ZLECAF vise à créer un marché unique de 1,3 milliard de personnes, un PIB estimé à 2600 milliards de dollars. Selon la Banque mondiale, on pourrait sortir 30 millions de la pauvreté. Ça, c'est, si vous voulez, ce sont des postulats et des hypothèses. Maintenant, l'Afrique ne représente qu'une infime partie de l'émission des gaz à effet de serre, moins de 4%. Et l'intégration commerciale sur le continent africain, il ne peut pas se faire en important des biens et services et puis en les distribuant à travers le continent. Il faut créer vraiment un modèle. Et je pense qu'il n'y a pas une seule Afrique où il n'y a pas une seule ZLECAF. Il y aura plusieurs ZLECAF et que les 54 pays, normalement, doivent regarder de près les avantages comparatifs qu'ils ont entre eux pour construire une économie qui serait proche du modèle des États-Unis ou du modèle de l'Union européenne pour avoir, si vous voulez, un vrai ancrage à une économie africaine qui ne serait pas seulement dans les discours. Oui, bah alors d'abord, ça commencera avec des changements technologiques, avec la quatrième révolution industrielle, et puis ça sera aussi avec une délocalisation de la production, c'est-à-dire de la mettre au cœur de l'Afrique et avoir des chaînes d'approvisionnement. Et ça sera lié au financement, ça sera lié aux infrastructures, ça sera lié surtout et surtout et surtout à une très bonne gouvernance politique, à une vraie démocratie à l'africaine. C'est ça qui nous manque sur notre continent. Et puis à une montée vraiment en puissance de l'éducation. C'est le nerf de guerre. C'est l'éducation, d'abord pas seulement au changement climatique, mais aussi l'éducation à la maîtrise des technologies, au numérique, au digital. Et on ne pourra pas absorber, si vous voulez, ce dividende démographique parce que l'Afrique ressemble beaucoup énormément à l'Inde, mais l'Afrique a les défauts de l'Inde, mais elle n'a pas les avantages de l'Inde. Et donc, oui, l'Afrique pourrait devenir une puissance comparative à ce que l'Inde est en train de devenir, quatrième ou cinquième puissance commerciale, mais il faut que la ZLECAF ne repose pas seulement sur des recommandations, des lois et des décisions. Il faut que ça remonte que ça repose vraiment sur qu'on ait des locomotives comme le Nigeria, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, des vraies locomotives du continent par sous-région pour qu'on ait vraiment après une cohérence dans la fiscalité, dans les revenus, dans les importations, dans les exportations. Non, voilà, c'est ça un petit peu la vision.
Et de bonnes locomotives, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, le Maroc fait partie de ces pays qui sont également dans ces dynamiques de développement, mais aussi dans ces dynamiques de pouvoir promouvoir cette économie verte. Et aujourd'hui, peut-on dire que le royaume est à bonne école ?
Oui, je pense que le Maroc est une des meilleures écoles de l'émergence de plusieurs modèles, parce que le Maroc, c'est, si vous voulez, il suit une sorte d'un capitalisme d'État avec une présence de l'État au cœur de la machine économique. Deuxièmement, c'est un pays qui a initié donc la transition énergétique très tôt. On va aller à l'aube de 2034-2035 à un mix énergétique où il y aura 52% de renouvelables. Puis les infrastructures, je pense que tout ce qu'on a dit au début, le Maroc l'a suivi, parce que le Maroc s'est éloigné, si vous voulez, de postulats idéologiques qui desservent notre continent africain. Il faut s'éloigner des postulats idéologiques, il faut mettre l'humain au cœur, mais aussi la valeur ajoutée au cœur, mais aussi l'interdépendance entre les pays africains, mais aussi de devenir dépendant des anciens pays industrialisés pour avoir son vrai modèle. Moi, je pense que le Maroc, ce n'est pas seulement un cas d'école, mais c'est la bonne école à suivre sur notre continent, également sur la transition démographique, pas seulement sur la transition énergétique.
Donc, sur la transition énergétique, toujours dans le cadre de la durabilité, nous recevions donc Abdel Ghani Youmni, économiste spécialiste des politiques publiques, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, rapporteur de la Commission du commerce extérieur et du développement durable. Merci encore Abdel Ghani Youmni d'avoir répondu à cette invitation.
Merci à vous, merci.
Merci également à vous, chers amis, pour la durabilité de votre confiance, toujours dans votre podcast sur la durabilité. On se retrouve pour un prochain numéro.